Fois merci beaucoup, Paul. En ce jour de 14 juillet, fête nationale, il est bien, je crois, naturel de citer la devise de notre pays : liberté, égalité, fraternité. Cette devise, née lors de la Révolution de 1789, aujourd'hui que l'on trouve présente sur tous les documents officiels, sur tous les bâtiments de l'État, les pièces de monnaie, etc., n'est pas, me semble-t-il, sans écho avec l'Évangile. Si les citoyens en France, les politiciens et les différents responsables respectaient vraiment cette devise, nul doute que cela bouleverserait notre pays et que cela changerait beaucoup de choses. Liberté, égalité, fraternité, c'est une très très belle devise, parfois battue en brèche, on l'a vu même récemment. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la liberté, même religieuse, est un sujet qui, vous le savez, est de plus en plus brûlant dans le contexte de la compréhension moderne d'une laïcité à la française. En effet, la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État est, vous le savez, de nouveau mise à l'ordre du jour. L'égalité est-elle vraiment toujours respectée aujourd'hui? Dans l'esprit de ses promoteurs, Jean-Jacques Rousseau disait à propos de l'égalité, je cite, « qu'il fallait que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. » Et ce que disait Rousseau me semble tout à fait intéressant dans le contexte actuel, parce que quand on considère qu'en France et en Occident, l'écart est toujours de plus en plus important entre les plus pauvres et les plus riches, en tout cas dans notre pays de France. Quant à la fraternité, elle est bien écornée quand on entend certains discours électoraux, à mon avis, hyper dangereux, qui, vous le savez, relancent des idées xénophobes, racistes, et je trouve que nos politiciens aujourd'hui vivent une triste fraternité. Pourtant, liberté, égalité, fraternité, trois valeurs sur lesquelles nous ne pouvons qu'être d'accord, en tout cas d'un point de vue évangélique. Et nous pourrions aussi les considérer comme trois bons repères, et c'est ce que je vous propose de faire maintenant, trois bons repères dans nos relations à l'intérieur de l'Église, tout comme dans notre implication à l'extérieur de l'Église, dans notre société. Liberté. D'après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, voilà comment est définie la liberté. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Dans le Nouveau Testament, la liberté théologiquement, c'est d'abord celle qu'on reçoit de l'œuvre de Jésus-Christ. Car la liberté évangélique, c'est une libération. C'est le Christ qui vient nous libérer du péché. Une libération de la loi, une libération de la mort, pour parler à la manière de l'apôtre Paul aux Romains, vous le savez, au chapitre 8, verset 2. Quand quelqu'un, dit Paul, est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi, ma liberté de la loi du péché et de la mort. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela, parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir. Mais Dieu a pu le faire. Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs pour les libérer du péché. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Cette liberté trouve sa source dans la justification par la foi. Elle découle de la grâce. Nous n'avons rien à faire, rien à prouver, rien à mériter. Juste, dit Paul, recevoir par la foi ce que le Christ a accompli pour chacun d'entre nous. C'est dans Romains chapitre 8, les versets 2 et 3. C'est intéressant parce que cette liberté dans la relation à Dieu impacte nos relations avec les autres, appelés aussi à être caractérisés par la grâce et la liberté. Christ m'a libéré, je jouis de cette liberté. Mais cette liberté, c'est une liberté qui respecte l'autre. Qui respecte l'autre dans ses convictions. Qui respecte l'autre dans son cheminement. Pourquoi ? Pourquoi si souvent la libération de l'Évangile a-t-elle conduit en pratique à des vision si légaliste de la vie chrétienne, à une volonté de formatage de l'expérience chrétienne, et nous pourrions parler dans certaines églises évangéliques de clonage. Le bon chrétien évangélique, il est comme ça. La bonne chrétienne évangélique, elle est comme ça. Elle porte des cheveux longs, elle ne porte jamais de pantalon, elle ne met jamais de rouge aux ongles, elle ne se maquille jamais, et quand vient le moment de la prière, nous lui demandons dans notre église de se couvrir. Elle met donc un foulard. Le bon clownage du chrétien évangélique. Où est passée la liberté du chrétien? Et permettez-moi de rajouter, parce que c'est surtout elle que ça intéresse, où est passée la liberté de la chrétienne? L'égalité. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tout cas dans sa première version, celle de 1793, voilà ce qu'elle affirme. Tous les hommes sont égaux par nature et ils sont tous égaux devant la loi. D'un point de vue biblique, il y a une affirmation forte de l'égalité fondamentale par nature de tout être humain, puisque nous sommes tous issus d'un seul et même couple. C'est, vous le savez, le récit de la Genèse qui fait d'Ève la mère de tous les vivants, comme le dit Genèse au chapitre 3, verset 20. Ève, la mère de tous les vivants. Mais il y a aussi l'affirmation très forte dans le Nouveau Testament de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui dit aux chrétiens de Galatie, au chapitre 3, verset 28, « Il n'y a pour moi plus de différence. Plus de différence entre les juifs et les non-juifs. Plus de différence entre les esclaves et les personnes libres. » Et écoutez bien ce que Paul dit. « Il n'y a pour moi aucune différence entre les hommes et les femmes. Car, dit Paul, nous sommes tous un en Jésus-Christ. » On peut donc dire que l'égalité fondamentale de tout être humain, mise à mal par le péché, le mal entré dans l'humanité, est appelée à être pleinement restaurée dans l'Église. Et je trouve dommage, mais le mot dommage, c'est pas le mot que j'aimerais utiliser, mais c'est le seul que j'ai trouvé pour vous parler ce matin. Je trouve dommage que dans bon nombre d'églises évangéliques, la troisième affirmation de l'apôtre Paul est totalement ignorée. Totalement inappliqué. Dans l'Église, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Je crois que le micro est d'accord avec moi. Il n'y a plus ni homme ni femme. Tu parles. Avec la limitation de certains ministères dans les églises évangéliques qui sont, je cite, « réservés ». J'ai rien fait. J'ai rien touché. Peut-être qu'il n'aime pas que je parle fort. Alors, je vais vous parler comme ça. Ça vous va si je vous parle comme ça? Avec la limitation dans les églises... Non, je suis incapable. Avec la limitation, disais-je, de certains ministères dans l'Église qui sont, je cite, et c'est vrai, réservés aux hommes. Je parlais dernièrement avec un collègue, et c'était assez marrant. Et quand je lui ai dit que chez nous, à l'église d'Ozoir, c'était une femme qui était présidente, et qui plus est qu'elle faisait super bien son boulot, il m'a regardé, il m'a dit, « Une femme ? Mais c'est pas biblique !» Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, l'égalité dans l'Église évangélique, mes amis, ben, c'est pas encore gagné. Malheur à vous, les femmes. L'affirmation de l'apôtre Paul nous invite, frères et sœurs, elle nous invite ce matin à relever le défi d'une Église où règne une véritable égalité. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette épître. Et si quelqu'un ce matin n'est pas d'accord avec moi, ce n'est pas moi qu'il faut venir voir ce matin. C'est Paul. Allez voir Paul. Allez voir le Seigneur, parce que c'est dicté par le Saint-Esprit qu'il écrit cela. Il n'y a plus dans l'Église ni homme ni femme. Et nous sommes appelés, du coup, à une véritable égalité, à une véritable multiculturelle, multiethnique, où tous, quel que soit leur origine, quelle que soit leur race, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur histoire, trouvent leur place. Et je me réjouis, et je suis fier, même si je ne devrais peut-être pas le dire, d'être pasteur de l'église d'Ozoir, où règne dans notre église un esprit de liberté. Il faut que dans ce domaine, l'Église soit exemplaire, frères et sœurs. la société nous regarde. Qu'on le veuille ou non, la société nous regarde. Que vous le vouliez ou non. J'ai rencontré le maire l'autre jour, la première chose qu'il m'a dit, « Mais monsieur le pasteur, j'ai appris que vous alliez nous quitter. » Mais comment l'a-t-il su ? Moi, je vous pose la question. Comment l'a-t-il su ? Quand je dis que la société nous regarde, je vous garantis que c'est vrai. Les gens de l'extérieur savent ce qui se passe dans l'Église. Et je me réjouis. Je me réjouis quand Madame Jarige, lors de notre réunion pour la préparation des journées du patrimoine, m'a dit « Dans votre Église, on n'entend que du bien. Vous êtes toujours là à participer aux réunions. Et on sent que vous voulez vivre. » Et c'est encourageant. Et je crois que dans ce domaine, l'Église doit être exemplaire. Mais malheureusement, pour certaines églises, ce n'est pas encore gagné. Liberté, égalité, il nous reste la fraternité. Il me semble que des trois termes de notre devise républicaine, la fraternité est celui qui a le plus clairement la couleur chrétienne. La fraternité est ainsi décrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je lis. De temps en temps, ça fait du bien de regarder un autre texte que le texte biblique. Alors voilà, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. D'ailleurs, ça va vous frapper. Je cite. « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir. » C'est pas la Bible. Je ne suis pas en train de citer la Bible, là. Je suis en train de citer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve ça très proche du langage biblique. Proche du commandement fondamental de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sans parler de l'impératif spécifique pour l'Église, qui nous est rappelé par notre Seigneur. Faut-il que je vous le rappelle ? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra que vous m'appartenez. La fraternité entre chrétiens et chrétiennes est évidente. Je dirais même, frères et sœurs, que c'est une richesse incroyable. Et moi, qui ai cette chance, cette bénédiction de voyager un peu et de visiter des églises dans les pays du monde entier, donc de voir d'autres cultures, je peux témoigner de ce sentiment extraordinaire. Que j'aille à Moscou, que j'aille en Chine, que j'aille au Laos, que j'aille aux États-Unis, quand je rentre dans une église, on est accueilli les bras ouverts. C'est une impression d'être en famille, immédiatement. Et Joël se rappellera de cette femme qui, à Saint-Pétersbourg, gardait juste la pièce du musée. Dans chaque pièce du musée, il y a une femme qui garde pour pas qu'on touche les tableaux, etc., les objets. Et elle était là et elle lisait. Et je n'avais pas remarqué ce qu'elle lisait. Seul l'œil de sphinx de ma femme, parce qu'il y a deux œils de lynx ici dans l'église. Hein. La première, c'est Marie-Christine, le conseil le sait. Et puis le deuxième, c'est Joël. Et Joël vient me voir et me dit « Regarde chérie, elle est en train de lire la Bible. » Alors tout doucement, je m'approche comme ça. Puis elle lisait effectivement la Bible. Alors je n'ai pas pu m'empêcher, je ne parle pas russe. Hein. Alors je lui dis « Do you speak English ?» Alors, je prends la Bible comme ça, je dis, Jésus, je l'aime. Et alors elle me regarde, elle me dit, oh alléluia, alléluia. Et puis elle criait dans le musée, alléluia, alléluia. Et elle me serrait très fort les mains comme ça. Et puis quand on a quitté la pièce, elle était comme ça. Elle était. C'est extraordinaire de voir, frères et sœurs, que dans n'importe quel pays où vous puissiez aller, quand vous rencontrez des frères et sœurs, on est unis. Unis par le même esprit, l'impression d'être en famille. Et cette fraternité, c'est, je dirais, à entretenir sur le plan local. En vivant l'Église, non pas seulement une fois par semaine, lors d'un culte, mais au quotidien, dans de véritables relations authentiques et vraies. Je répète, dans une relation authentique et vraie. Il m'est arrivé avec Joël d'aller prêcher il y a plusieurs années dans une église qui était à l'époque la plus grande église de France à Paris. Et le pasteur m'avait invité à prêcher. Et donc j'ai prêché, et après la prédication, je vois arriver un couple vers moi qui me dit « Jean-Claude, Jean-Claude !» Alors je dis « Ah, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Elle me dit « Mais voilà, nous on est là, dans cette église. » Je dis « Mais ça c'est formidable !» Puis on commence à discuter. Et puis c'est un gars et une fille qui s'étaient rencontrés lors d'un camp que j'avais organisé. Parce que de temps en temps, je fais aussi agence matrimoniale. Mais rassurez-vous, je ne suis pas payé pour ça. Hein. Mais alors, ils s'étaient mariés, tout ça. Et puis ils allaient dans cette église. Puis on discutait, on ne s'était pas revus depuis, tout ça. Et le pasteur vient me voir. Et elle me dit, je lui dis, mais ça fait combien de temps que vous êtes là? Elle me dit, oh, ça fait au moins plus de 4 ans qu'on est là dans cette église. On est bien, c'est super, tout ça. Et le pasteur vient me voir, il me dit, Jean-Claude, faut y aller, parce qu'on a une, faut manger, puis on a une réunion après. Et je dis, je vous présente pas. Alors le pasteur me dit, vous êtes qui? Alors il dit, je m'appelle un tel, ça fait 4 ans qu'on est là. Ah, d'accord, ok, enchanté. Ça faisait 4 ans qu'ils étaient dans cette église, et le pasteur les connaissait pas. Ce qui est normal. Ils étaient combien? 800, je crois, hein, dans l'église. Alors, c'est normal, mais la question, c'est où est la véritable relation authentique et vraie dans l'Église quand on ne se connaît pas? Simplement, bonjour, ça va? Oui, et toi? Ça va. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Ça va? Ouais, ça va. Par ça? Ça va. C'est pas une relation authentique. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à avoir cette relation authentique et vraie, dans un esprit de service mutuel, dans un service de prière les uns pour les autres. Alors, en ce jour du 14 juillet, je pose cette question, qu'en est-il de notre fraternité humaine? Qu'en est-il de notre solidarité entre frères et sœurs dans l'humanité? Qu'en est-il? Je crois que nous sommes appelés à veiller à cela. À prier aussi. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, il y a des dizaines de chrétiens coptes qui meurent chaque jour en Égypte? Les médias, ne comptez pas sur les médias pour vous en informer, ils ne vous diront rien. Mais c'est un fait. C'est un fait parce que j'ai des amis chrétiens en Égypte et ils me l'ont dit. Les islamistes en ce moment font la chasse aux chrétiens. Et nous sommes appelés à une solidarité avec nos frères et sœurs, y compris d'autres cultures, d'autres religions peut-être aussi. Et donc, il faut arriver à ne pas considérer seulement les autres comme des gens qui ne sont pas peut-être comme nous, mais il faut réaliser que ces personnes qui sont peut-être pas de la même ethnie, pas du même pays, pas de la même société que nous, sont des gens que Dieu aime, qui sont appelés à croire en Jésus-Christ. Ce sont eux les plus proches de nos prochains. Donc liberté, égalité, fraternité, je trouve que c'est une belle devise pour un pays. Mais c'est aussi, on vient de le voir, un beau programme pour notre Église, pour une Église. Et c'est un défi aussi. Celui de vivre dans l'Église, une vraie liberté, vécue dans des relations marquées par la grâce, une vraie égalité qui va permettre à chacun et à chacune de trouver sa place dans l'Église. Une vraie fraternité authentique et pas seulement de façade. Et je dis, frères et sœurs, que si nous arrivons à relever ce défi, alors l'Église sera un vrai feu d'artifice à la gloire de Dieu. Amen. Nous prions. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce et ton amour envers chacun de nous. Nous te remercions parce que par ta vie, par ta mort, tu nous rends libres. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que dans l'Église, tu nous appelles à une égalité parfaite. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Il n'y a que des frères et sœurs en Christ. Merci, Seigneur, parce que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. C'est la vraie fraternité et c'est ce que tu nous appelles à vivre dans l'Église. Liberté, égalité, fraternité. Merci de nous aider, Seigneur, parce que sans toi, nous n'y arriverons pas à relever ce défi. Au nom de Jésus. Amen.